Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agneau et vous êtes sur une leçon. Alors aujourd'hui, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je suis avec Marina, qui a une question que vous êtes très 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 nombreux à me poser, et donc nous avons choisi de répondre à celle de Marina, mais j'espère que ça parlera à plusieurs d'entre vous. La question de Marina est la suivante: comment trouver son idée de génie pour entreprendre? En gros, vous allez le comprendre, Marina aujourd'hui n'est pas entrepreneur, mais elle est un peu tombée dans mon podcast et du coup se pose des questions sur sa carrière professionnelle et notamment sur l'entrepreneuriat, se demande si elle veut pas lancer sa boîte. Le problème, elle n'a pas d'idée. Du coup, elle se pose cette question légitime: comment réussir à trouver la bonne idée? Comment développer sa créativité au quotidien? Comment se nourrir d'informations chaque jour pour trouver l'idée qui va ensuite être à la source de son business? Une question, une fois de plus, que vous avez été très très nombreux à nous poser, et donc je suis particulièrement ravie d'y répondre aujourd'hui avec Marina. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette leçon. Salut Marina!
Salut Pauline!
Bienvenue sur cette leçon!
Merci!
Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, me dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'amène ici, justement? Quelle est cette fameuse question qui te taraude et que tu as envie de me poser?
Yes. Alors du coup, je suis Marina Luro, donc je viens du Pays Basque, peut-être que ça va s'entendre dans mon accent. Et j'ai fait une école d'ingénieur agro, donc tout ce qui tourne autour de l'agriculture, l'agronomie et l'agroalimentaire. Et là, du coup, j'occupe mon premier job. Donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre c'est le groupe agroalimentaire Mars. Okay. Et en fait, je suis chef de secteur, donc commercial pour les grandes distributions. Mm-hmm. Et donc, je ne sais pas si tu connais un peu ce type de job, mais je passe
pas
beaucoup
bien,
de...
Mais j'imagine que tu passes un peu de temps sur la route.
Voilà, c'est ça. Et donc, je suis souvent sur la route. C'est là que j'ai commencé à écouter vraiment... tous tes podcasts. J'ai lu aussi le livre, donc mon challenge Happy Entrepreneur de toi et Laurie.
Et ça t'a plu?
Voilà, ça m'a énormément plu. C'est là que je me suis dit aussi que j'étais bloquée, en fait, d'où ma petite question. Et c'est vrai que je me suis retrouvée, en fait, un peu dans vos profils. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas plus tard. Et mais le problème, c'est que j'ai pas d'idée. Donc c'est ça surtout ma question, savoir comment on peut trouver son idée de génie un peu, et si en fait on peut réussir à développer sa créativité au quotidien. Voilà, s'il y a des petites méthodes pour trouver son idée et la développer.
Très intéressant. Écoute, alors c'est rigolo, je me reconnais un petit peu, parce que moi, pour un tout petit peu te raconter mon début, on va dire, de carrière entrepreneuriale, j'ai un peu décidé que je voulais être entrepreneur, ce qui est paradoxal, parce que la plupart des entrepreneurs qui se lancent parce que justement, ils ont une idée. Et moi, en fait, j'avais fait les choses un peu à l'envers, donc en ça, je te ressemble un peu, à savoir que, en fait, j'étais dans le secteur public, donc rien à voir l'enseignement en l'occurrence, et je me suis rendu compte que c'était absolument pas ma vocation, que j'avais vraiment envie d'aventure, de risque, de créativité dans ma vie. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, mais attends, il faut que je sois entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat qui doit être ma vocation, d'autant plus que mon papa est entrepreneur. Et donc, je pense que ça m'avait inspirée. Alors, paradoxalement, comme je te disais précédemment, que je me destinais plutôt à une carrière dans la fonction publique initialement, plus pour des raisons, on va dire, de j'étais bonne à l'école et j'ai fait un peu ce qu'on me demandait de faire. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, je n'avais strictement aucune idée de quelle boîte j'allais lancer. Et donc, j'ai commencé à, comme toi, me poser des questions, mais sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la bonne idée, qu'est-ce que c'est que la bonne idée, comment faire. Et moi, il se trouve qu'à l'époque, j'avais un secteur de prédilection qui était le secteur du food, on va dire, de la gastronomie, de la nourriture, parce que je suis gourmande, que j'aime bien bien manger, que j'aime bien la nourriture aussi assez healthy. Et à l'époque, dans les années, tu vois, 2008-2010, franchement, il n'y avait pas grand-chose encore dans le domaine. Donc, j'avais un peu identifié, on va dire, l'opportunité qui était que je sentais que c'était une nouvelle tendance qui allait venir et que pour l'instant, il n'y avait pas encore grand-chose. Mais bon, je n'avais pas l'idée du siècle. Et donc, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais postulé dans un stage, dans une boîte, dans le secteur de la gastronomie pour me dire, bah, en fait, peut-être que ça va me donner des idées. Et puis, d'autre part, peut-être qu'en fait, je vais me confronter à la réalité et voir si j'aime vraiment ça. Donc ça, c'est peut-être déjà la première chose. C'est pas évident pour toi, parce que si jamais t'as un job, bah, je peux imaginer que réussir à faire un stage en parallèle, c'est pas évident. Mais ça peut peut-être passer par, tu vois, un travail associatif. Ça peut passer aussi tout simplement par parler à des personnes qui travaillent dans un domaine qui t'intéresserait particulièrement. Donc ça peut être un moyen, tu vois, de creuser un thème qui t'est cher. Comme moi, la gastronomie, par exemple, si jamais tu as pas d'idée précise, mais que tu sais déjà, tu vois, qu'il y a un secteur d'activité qui peut potentiellement t'intéresser. Je sais pas si c'est le cas, justement, ou si à l'inverse, tu t'es vraiment hyper ouverte sur tout.
Alors, c'est vrai que moi, je suis vraiment tournée sur un peu mes études, l'agriculture, manger sainement et un peu local. Je suis attachée aussi, voilà, aux produits qui viennent de chez moi, qui sont de bonne qualité. Et ouais, pourquoi pas sur ce thème-là. Après, c'est très très large, donc c'est vrai que faudrait peut-être échanger, voilà, avec des personnes dans des groupes associatifs, comme tu dis. Après, voilà, moi j'ai 24 ans, je me dis que bon, ça va peut-être venir après.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, non, mais là, du coup, je te parlais juste de mon cheminement et je suis pas persuadée, effectivement, que tu sois obligée de créer ta boîte tout de suite. Au contraire, tu peux toujours garder, et ça, c'est quelque chose que je recommande d'ailleurs souvent, en tête que peut-être un jour tu crées ta boîte, peut-être pas. Et honnêtement, tout le monde n'est pas forcément né pour être entrepreneur, parce que c'est quand même pas facile tous les jours. Et puis, par ailleurs, y a plein d'autres métiers qui sont magnifiques que l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, je dirais que si tu l'as en tête, ça te permettra aussi de filtrer un peu le monde, tes interactions et puis tes expériences avec ce biais, et du coup de potentiellement identifier, tu vois, des opportunités si jamais tu parles à des personnes qui te disent ah bah moi dans mon domaine il y a toujours ça comme problème, et du coup bah peut-être que si tu te dis qu'un jour tu seras entrepreneur, plus naturellement en fait tu vas dire ah bah en fait s'il y a un problème, moi je peux peut-être trouver une solution. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve. C'est que souvent les gens qui essayent d'avoir une idée pour être entrepreneur, je trouve, prennent peut-être un peu le problème à l'envers, en essayant juste déjà de se forcer à être entrepreneur, alors qu'en fait, sincèrement, une fois de plus, moi je veux quand même le rappeler, ça n'est pas fait pour tout le monde, c'est pas un métier de rêve, c'est aussi un métier difficile, franchement, et que je pense que pour être entrepreneur, en fait, être entrepreneur, et moi-même je suis un peu un contre-exemple, hein, mais il faut, je pense, avoir avant tout un projet, une idée qui te plaît tellement que du coup tu vas te dire je vais être entrepreneur pour répondre à ce problème, tu vois. À l'inverse, en fait, si tu pars plus du constat que tu vas être entrepreneur, malheureusement, il se trouve que moi, je suis passée entre les mailles du filet, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont fourvoyées parce que ils pensaient en fait que l'entrepreneuriat, c'était être libre, déterminer son propre agenda, prendre des risques, de l'aventure, etc. C'est aussi ça, mais c'est aussi quand même un paquet d'emmerdes en parallèle et très très supérieur, si tu veux, on va dire aux bénéfices, en tout cas au début, que tu vas retirer de l'entrepreneuriat, ne serait-ce que financièrement, si tu veux. Et donc il faut quand même avoir une sacrée dose de motivation, et pour avoir une sacrée dose de motivation, bah en fait il faut avoir une mission, quoi, tu vois, tout simplement. Et donc il faut avoir une idée en laquelle tu crois tellement que du coup tu vas un peu t'accrocher envers et contre tout. Et pour en revenir à mon exemple, moi, en fait, au final, et c'est ça qui est drôle, c'est que je pensais que je voulais être entrepreneur. Et je cherchais un peu des idées à droite à gauche. J'ai d'ailleurs essayé plusieurs fois de lancer des boîtes pendant cette période-là, mais qui capotaient au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'en fait, j'étais pas réellement motivée. J'étais motivée par l'idée d'être entrepreneur, tu vois, plus que par un projet sincère. Mais quand la bague de... Enfin, tu connais peut-être l'histoire de Gémio, je vais pas te la refaire en large et en travers, mais en gros, quand il y a eu cette opportunité qui m'est apparue, mais en fait, si tu veux, elle m'a... c'est comme si elle m'a sauté à la gorge, quoi, cette opportunité. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec beaucoup de violence, je veux dire, intellectuellement, je me suis dit, mais c'est pas possible de à quel point le monde de la joaillerie était vieillot, à quel point l'expérience était intimidante. Et il n'y avait pas, je trouvais, de marque qui permette de juste se sentir bien, une marque humaine, tout simplement, et moderne, tout en étant de gamme. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut créer quelque chose. Et donc, en fait, j'ai presque envie de te dire, il faut pas que tu prennes le problème à l'envers. Je pense à ce stade que tu as plus besoin de garder tes écoutilles ouvertes au maximum, de te dire en permanence, il faut que je sois à l'affût des bonnes idées, à l'affût en fait des problèmes que tu vois dans la société. Mais en fait, je t'assure que le jour où tu vas vraiment avoir une idée qui, toi, va te toucher parce qu'en fait, elle te parlera, eh bien, tu vas le sentir et tu n'auras pas besoin de la chercher. Tu vas pas avoir besoin d'avoir une démarche réellement proactive, je pense, pour le faire. Je connais des entrepreneurs qui ont eu des démarches proactives, qui ont carrément payé, si tu veux, des consultants pour essayer de leur trouver des opportunités, etc. C'est possible de le faire. Sincèrement, ces personnes-là sont assez rarement heureuses dans leur métier parce qu'en fait, elles ne font que répondre, tu vois, à une problématique business opportuniste. Et moi, en tout cas, c'est pas ma philosophie de vie. Je pense qu'il faut être, vraiment, surtout dans le métier de l'entrepreneur, qui est un métier très difficile, sincèrement, mais profondément habité par son projet. Et c'est pas parce que t'as 3 slides d'un cabinet de conseil qui t'ont dit que c'était bien que ça va fonctionner. Donc tout ça pour dire que je pense que je verrais peut-être les choses assez différemment peut-être de ce que tu m'as proposé dans ta question initialement, mais c'est de te dire, si l'entrepreneuriat est quelque chose qui t'intéresse, moi je pense que en tant que bon entrepreneur, tu vas en fait faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire en fait être en permanence à l'affût, être en permanence en quête, tu vois, de nouvelles idées, mais pas les chercher forcément de manière proactive. Plus rencontrer un maximum de personnes, t'intéresser, être curieuse, poser des questions, et tu vas te rendre compte que, chemin faisant, un jour, un peu par hasard, ça va te tomber dessus. C'est quasiment toujours comme ça que ça arrive. Enfin, je repense à une interview que j'ai faite il y a assez longtemps maintenant avec Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. Lui, il pensait pas du tout être fondateur de Blablacar. Enfin, il pensait pas créer une boîte un jour et il était absolument pas intéressé par ça. Il était scientifique, si tu veux. Et puis, en fait, il explique assez simplement que il était dans sa voiture un jour sur le périph et voyait tellement de monde. Il en pouvait plus. Et en fait, je crois que tous les jours, il se prenait des bouchons. Et il voyait qu'il y avait systématiquement une seule personne dans la voiture avec lui. Enfin, autour de lui, si tu veux, dans leur propre voiture. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, c'est stupide. Je suis sûre qu'il y a une manière de faire les choses différemment. Et donc, en fait, il a eu un espèce de choc, si tu veux, qui a fait qu'ensuite, il s'est lancé dans ce projet complètement fou. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a quand même mis, je crois, 6 ou 7 ans avant de commencer à générer un tout petit peu de chiffre d'affaires, quoi. Ça a été très, très long pour lui. Donc, tout ça pour te dire que même si l'idée de l'entrepreneuriat t'intéresse, et je te dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, mais je pense qu'il faut pas que tu forces le destin. Je pense plutôt qu'il faut que tu utilises cette envie comme un moyen de filtrer le monde autour de toi, pour que, concrètement, dès que tu vois quelque chose de nouveau, dès que tu vois quelque chose d'irrationnel, dès que tu vois quelque chose qui tourne pas rond, tu dises, est-ce que c'est une opportunité et est-ce que cette opportunité m'intéresse? Mais je le ferais plus comme ça, tu vois, plutôt que de chercher proactivement, de manière un peu, artificielle, une idée qui, en fait, t'intéressera peut-être pas fondamentalement.
Ouais, c'est super, c'est mon point. Et aussi, je me disais, toi, comment tu peux le voir souvent, en fait, quand tu montes une boîte, quand tu crées un projet ou un nouveau produit, c'est pour répondre à un problème. Mais est-ce que, il faut vraiment répondre à un problème, ou si on a une petite idée qui ressemble à une autre, juste la développer et qu'elle se différencie, en fait, d'une idée qui existe déjà, en apportant une solution supplémentaire, tu vois, quelque chose comme ça, ou si vraiment il faut répondre à un besoin, une problématique, quoi.
C'est une bonne question. Écoute, je te dirais, le plus simple, c'est de répondre à un problème, parce qu'en fait, s'il y a un problème, mais c'est pas si facile à trouver, des gros problèmes, qui est béant, en fait, ton marketing va être facile, parce qu'en fait, tu vas avoir, en fait, tout simplement, une seule ligne directrice, qui est de dire, mon job, c'est de répondre à votre problème, et du coup, tu pourras aller facilement aller trouver les personnes qui souffrent de ce problème. Donc, je dirais que c'est un atout de répondre à un problème, parce qu'en fait, c'est tout simplement plus facile d'être entrepreneur dans ce genre de cas. Mais après, il y a plein de boîtes qui n'ont pas répondu à des problèmes. Je te prends l'exemple de ma marque. Moi, en joaillerie, certes, j'ai identifié que il y avait des choses que je trouvais pas correct, pas bien, enfin en tout cas qui moi ne me convenait pas dans le secteur de la joaillerie. Mais enfin la joaillerie existe depuis des millénaires et des millénaires, ça continuera à exister après Gémio et il n'y a pas de problème fondamental, tu vois, pour les gens qui veulent acheter des bijoux, ils peuvent le faire, il y a des belles marques, etc. Mais après, j'ai quand même identifié qu'il y avait une manière différente de faire les choses dans ce secteur et que moi personnellement, ça m'avait posé problème. Donc je peux imaginer que ça pose problème à d'autres personnes. Donc tout ça pour dire que tu n'es pas obligé d'être dans une optique, tu vois, on va dire hyper catégorique de il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une solution. Non, ça peut être qu'en fait tu es passionné par je sais pas l'art et que tu t'as pas identifié un problème mais tu as constaté que dans ces métiers-là en réalité il y a pas beaucoup d'accessibilité, c'est pas très digital, j'ai n'importe quoi et que toi ça t'éclate d'avoir à répondre à cette opportunité de digitaliser le monde de l'art. J'ai n'importe quoi. Ou à l'inverse, tu es passionné par les textiles et tu te rends compte que bah en fait il y a des marques de mode, Dieu sait qu'il y en a, mais une marque de mode avec un style différent et peut-être une approche tu vois qui soit un petit peu innovante, et ben tu penses qu'en tout cas toi ça t'éclate de le faire et tu te dis que ça répondra non pas une fois de plus à un vrai besoin, parce qu'en réalité une fois de plus hein, des marques de mode il y en a beaucoup et les gens arrivent à s'habiller malgré tout assez facilement, mais avec quelque chose de différent qui fait que tu vas pouvoir communiquer. Donc je dirais qu'il y a vraiment ces deux cas de figure. Le cas de figure principal qui est à tout problème une solution est plus simple parce qu'en fait tu vas plus être dans une optique, tu vois, où tu vas bah, finalement avoir une démarche presque de vente pour expliquer quel est le problème et donc ton marketing va être assez facile. Tu vas juste expliquer en fait dans tout ce que tu fais au niveau de ton marketing, ben en quoi tu réponds à ce problème. À l'inverse, tu peux avoir énormément de cas de figure et c'est le cas de globalement toutes les marques en réalité qui ne répondent pas à un problème. Quand tu crées une marque, tu ne réponds pas à un problème. En fait, tu partages plus une vision du monde. Tu vois, c'est ça la différence. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que il faut avoir dans ce cas un caractère qui est identifié, qui est assez différencié. Effectivement. Donc, par exemple, chez Gémio, le fait d'être une marque de joaillerie beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus humaine, beaucoup plus incarnée et plus personnalisée. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, qu'on répond à un problème fondamental du monde de la joaillerie. Ça veut dire qu'en fait, on apporte une vision différente du monde de la joaillerie. Je pense personnellement, peut-être parce que je suis dans ce cas de figure, que c'est plus compliqué. Par exemple, c'est marrant, tu vois, les formations d'Emian que je vends, je pense répondre plus à un problème. Et d'ailleurs, j'ai lancé ces formations parce que toute mon audience me disait en permanence, bah, je ne veux pas aller faire un master à HEC ou je ne sais où, ça coûte une fortune, je n'ai pas le temps de le faire et je suis même pas sûr que ça soit très opérationnel. Je ne crois pas non plus à beaucoup de youtubeurs qui sont un peu vendeurs de rêves et du coup, je cherche juste une méthode simple et actionnable pour monter ma boîte ou pour me développer professionnellement et je ne trouve pas. Donc là, tu vois, je répondais vraiment à un problème. Et effectivement, d'ailleurs, bah, c'est assez simple, en fait, finalement, en termes de marketing pour moi, parce qu'en fait, bah, j'apporte une solution, enfin, en tout cas, j'essaye d'apporter du mieux que je peux une solution à ce problème. À l'inverse, comme je te le disais, avec Gémio, je n'apporte pas une solution à un problème, je vais plus bah, partager une vision de la joaillerie qui est la mienne et qui est différente de celle des autres marques. Donc, une fois de plus, je pense que, tu vois, le monde de l'entrepreneuriat est extrêmement large. En fait, en réalité, le fondamental pour moi, c'est qu'il faut avant tout que tu fasses quelque chose qui te parle. Et peut-être que comme moi, un jour, tu auras deux boîtes différentes et que tu en auras une qui répondra à un problème et une qui sera une marque et ça sera très, très bien comme ça. Mais je dirais que le plus important, en fait, c'est que tu gardes un peu ton cœur ouvert, que tu gardes ton état d'esprit ouvert et que tu gardes surtout cette curiosité. Et la plupart des entrepreneurs, serial entrepreneurs que j'ai pu rencontrer sont des personnes, mais qui renifle les opportunités, tu peux pas imaginer. Je pense notamment à un entrepreneur que j'ai interviewé qui s'appelle Jacob Abou, qui a été un de mes mentors pendant des années, enfin qui continue à l'être d'ailleurs. Et Jacob, il a créé 80 boîtes, je crois, dans sa vie. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais parce que, si tu veux, il passe sa vie à rencontrer des gens. Dès qu'il voit quelqu'un qui lui dit « Ah, là, ça marche pas bien », mais il va pousser, si tu veux, le questionnement pour ensuite se dire s'il crée une boîte ou pas sur ce sujet. Donc en fait, il y a vraiment une démarche hyper proactive, tu vois, de curiosité qui va faire que, en fait, quand t'es fondamentalement entrepreneur, tu cherches à résoudre des problèmes, ouais, tu cherches à trouver des failles dans le système, d'une certaine manière, que tu vas pouvoir compenser avec ta propre vision. Mais il faut être aligné avec soi-même, et je dirais que juste répondre à un problème pour répondre à un problème, si toi, ce problème, finalement, tu t'en fiches, tu peux le faire, mais je pense que tu le feras peut-être premièrement moins bien que quelqu'un qui est sincère dans cette démarche, et par ailleurs, bah, au bout d'un moment, tu vas juste être fatigué et tu seras plus très motivé, tu vois. Parce que cette question, elle compte quand même aussi, tu vois, la question de la motivation. Et c'est pour ça que j'en reviens un petit peu à cette question d'alignement et d'envie. C'est, je pense qu'il faut pas se forcer. Faut pas se forcer à faire les choses juste parce que c'est bien ou parce que c'est cool ou parce que c'est l'opportunité du moment. Pour moi, si jamais tu veux vraiment t'inscrire dans une démarche de long terme entrepreneuriale et d'accomplissement personnel en parallèle, franchement, il vaut mieux que tu passes un petit peu plus de temps à garder tes écoutilles ouvertes, à garder les yeux ouverts sur le monde. Et puis, je t'assure, le jour où t'auras quelque chose qui te satisfait, qui te botte vraiment et qui te donne envie, franchement, tu le sauras. Et tant mieux si ça prend un peu de temps. Tant mieux si ça prend un peu de temps. Comme ça, au moins, tu sauras que tu l'auras pas volé.
Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas aussi, par exemple, si dans un premier temps, tu vois, je me rapproche un peu d'un concept qui existe déjà et en fait qui est, je sais pas, admettons, sous licence, enfin contrat un peu franchisé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Bon, après, toi, t'es complètement dans l'entrepreneuriat, du coup, peut-être que t'es moins sur les franchises, mais peut-être avoir ton avis.
Non, moi, je trouve ça super. J'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur le sujet, dont un, je sais pas si tu l'as écouté, mais que je t'invite à écouter vraiment sur le thème de la franchise, parce que pour moi, c'est un super premier pied dans l'entrepreneuriat avec un peu moins de risques, si tu veux, que d'inventer un concept. Parce que concrètement, si tu es franchisé et non pas franchiseur, tu es entrepreneur dans la mesure où tu vas devoir créer ton activité, embaucher, enfin, t'es responsable, tu vois, t'as un certain poids sur les épaules, mais en même temps, t'as un cadre globalement qui est d'une certaine manière certifié, c'est-à-dire que tu sais que ça fonctionne ailleurs, et donc t'as quand même une forme de certitude au sens où toi, ce que tu vas devoir tester, c'est ta capacité à exécuter, à faire du business, mais pas ton idée. Et donc ça décorrèle finalement ta capacité à trouver la bonne idée de ta capacité à être un entrepreneur. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant pour démarrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi, il trouve que je connaissais pas bien le monde de la franchise plus tôt, donc j'avais pas pensé à ça. Mais je trouve que c'est un peu comme de faire un stage dans une start-up ou dans une petite boîte où on apprend parce qu'on met énormément les mains dans le cambouis. C'est un peu la même histoire. Je trouve que c'est un super, super moyen, en fait, bah, tout simplement d'acquérir de l'expérience. Et en fait, il faut quand même réaliser une chose, c'est quand on lance sa boîte, qu'on soit franchisé ou pas, on est nul au début. J'ai été nul, tout le monde est nul. C'est normal, parce qu'en fait, on débute. C'est comme tout, c'est comme un sport. Si tu veux, on ne naît pas bon entrepreneur. C'est impossible. Et personne n'est bon entrepreneur. Elon Musk n'est pas né bon entrepreneur, j'en suis sûr. Peut-être qu'il avait plus d'instinct que d'autres, mais je suis sûr qu'il a fait un paquet de conneries au départ, comme nous tous, parce que, bah, en fait, il savait pas, tu vois. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, apprendre aux dépens, j'ai envie de dire, d'autres personnes dans le cadre d'une PME ou d'une startup dans laquelle tu seras employé, ou dans le cadre d'une franchise, c'est pas aux dépens, mais en tout cas, ça veut dire que tu cadres les choses et qu'au moins t'enlèves une partie du risque, parce que au moins l'idée, on va dire qu'elle a été prouvée comme étant valable. Eh bien, je trouve que c'est un très bon moyen, effectivement, de démarrer si t'as pas encore d'idée. Et au contraire, moi, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent et peut-être à toi, non seulement c'est pas sale, il y a pas du tout de mal à ça, mais je pense que c'est une super opportunité pour ensuite, si un jour t'as une bonne idée, bah, devenir tout de suite beaucoup plus performant, parce que t'auras déjà fait tes armes, si tu veux, sur quelque chose de déjà compliqué, mais peut-être un petit peu moins qu'en plus à avoir inventé une idée.
Ouais, du coup, ça, c'est un bon point aussi pour démarrer, peut-être quand on n'a pas trop d'idées propres à soi-même.
Tout à fait. Et puis, je pense qu'il faut pas avoir honte, tu vois, de pas avoir d'idées. Enfin, moi, je t'ai dit, peut-être qu'un jour, elle te tombera dessus. Mais en fait, si t'es attiré par le monde de l'entrepreneuriat, que tu sais que t'as envie de te lancer, franchement, tu peux effectivement rejoindre un groupe de franchise, tu peux travailler dans une boîte qui est déjà plus petite, ça peut être une bonne première étape. J'avoue que passer, tu vois, du grand groupe, qui a l'air d'être le cas quand même pour Mars, à une expérience entrepreneuriale, c'est quand même un sacré saut. Et peut-être qu'en fait, tu peux considérer une étape intermédiaire, parce qu'en fait, là, pour l'instant, t'as une image de l'entrepreneuriat qui est séduisante, et je te dis pas que c'est pas séduisant à certains égards, mais c'est aussi dur à certains égards. Je sais que tu le sais, mais c'est quand même différent quand on le vit, parce qu'en fait, malgré tous les mots que je peux employer, en fait, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le comprendras pas fondamentalement dans tes tripes. Et du coup, bah, peut-être que juste ça te plaira pas. Et c'est pas grave, d'ailleurs. Il y a plein de gens géniaux qui ne sont pas entrepreneurs. Il y a plein de gens d'entrepreneurs qui sont des connards. Donc, en fait, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas, il faut pas être entrepreneur ou ne pas être. En revanche, si ça te titille, si t'as un peu envie de tester cette idée, pourquoi peut-être ne pas commencer plutôt que de te lancer dans une recherche d'idées par travailler dans une PME, par exemple, une petite boîte où tu auras un rôle beaucoup plus opérationnel et donc plus proche de ce que tu aurais en tant qu'entrepreneur, ou voire même travailler dans le monde de la franchise. Effectivement, c'est une super première idée, tout en gardant d'ailleurs tes écoutilles ouvertes, comme on en parlait précédemment, pour que peut-être dans ce secteur-là, tu te rendes compte qu'il y a des opportunités et qu'ensuite tu lances ta boîte. Mais comme ça, tu auras un petit peu fait tes armes dans un premier temps, sans avoir à toi-même à réinventer la roue.
Super. Et je me demandais pourquoi pas, parce que je sais que tu connais beaucoup de personnes, si tu avais des comptes de personnes inspirantes, tu vois, à suivre, qui donnent un peu des idées.
Des idées, tu veux dire des idées de business ?
idées de business, ouais, qui te permettent de développer un peu ta créativité. Quand toi, tu les écoutes, tu te dis, ah ouais, c'est top, ça pourrait me donner des idées. Enfin, je sais pas si...
C'est une bonne question. Alors, je t'avoue que des idées de business... moi, j'écoute effectivement des podcasts, des choses comme ça, mais c'est vrai que maintenant, j'écoute, comme je fais moi-même mes podcasts business, j'écoute plus tellement de podcasts business parce que du coup, j'en fais déjà globalement un par semaine pour moi, donc c'est déjà pas mal. Mais il y en a un que j'aime beaucoup qui est en langue anglo-saxonne en revanche, donc enfin en anglais pour le dire simplement. Donc peut-être que si tu parles pas anglais, ça sera plus difficile d'accès, mais qui est pas mal parce que les épisodes sont assez courts. Pour tout te dire, il m'a beaucoup inspiré aussi au moment où j'ai lancé mon propre podcast, même si mon format est différent. Ça s'appelle How I Built This, d'un Américain qui s'appelle Guy Raz. Mais le titre du podcast, c'est How I Built This, comment j'ai construit ça, qui est très sympa parce que justement, en fait, il part globalement toujours du début de cette personne qui elle était, comment est-ce qu'elle a eu son idée, puis comment est-ce qu'elle a construit sa boîte. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément de boîtes dans des domaines, mais complètement différents. C'est pas du tout que des entrepreneurs de la tech. Tu vois, ça peut être des magasins de cookies aux États-Unis, ça peut être une nana qui a lancé sa marque de shampoing. Enfin, je veux dire, c'est hyper, hyper varié. Et ça peut être Shopify. Enfin, c'est vraiment très large. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que justement, c'est pas uniquement dans un domaine varié. C'est uniquement l'entrepreneuriat de la création d'entreprise. Mais par contre, avec des boîtes qui sont extrêmement variées. Donc, peut-être que ça te donnera des idées.
Ok, super. Du coup, ouais, en gros, c'est rester alerte, curieuse et comme ça, dès que l'idée se
présente. Je pense qu'il faut pas que tu forces le destin. Tu sais, c'est un peu comme de tomber amoureux, franchement. Hein. Tu vas pas décider que tu vas tomber amoureux, c'est impossible. Il y a un moment donné, il faut juste que tu te dises, que tu sois prête dans ton cœur, dans qui tu es, de tomber, enfin, en fait, que tu sois tellement bien que tu laisses la possibilité à l'amour, mais ensuite, il faut rencontrer la bonne personne. Tu peux pas juste décider et d'ailleurs c'est un bon exemple, j'y ai pas pensé avant, mais si tu décides de tomber amoureuse d'une personne parce que elle coche toutes les cases, tu peux être sûr que ça va être une catastrophe. Et donc typiquement, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est la même chose, il faut que tu aies le bon état d'esprit, c'est-à-dire un état d'esprit où tu vas être prête à accueillir le fait que tu auras l'idée un jour qui te tombera dessus, parce qu'à l'inverse, un peu de la même manière que certaines personnes quand elles sont fermées sur elles-mêmes n'arrivent pas, ne peuvent pas tomber amoureuses parce qu'elles sont juste pas en état mental, tu vois, de tomber amoureuse, bah, un peu pareil pour une idée. Il y a certaines personnes qui ne voient pas les idées presque leur tomber dessus parce qu'en fait, elles sont dans leur ornière, tu vois, elles font leur truc, elles ne sont pas ouvertes d'esprit. Mais si tu es ouverte d'esprit parce que tu sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que ça finira par venir, peut-être même plus vite que tu ne crois. Et pourquoi pas, en parallèle, essayer de réfléchir à apprendre un peu le métier d'entrepreneur, qui est autre chose de l'idée, via peut-être un job dans une plus petite boîte ou pourquoi pas de la franchise si jamais t'as envie de sauter le pas.
Ok, super, très bien.
Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que cette métaphore de l'amour ne t'a pas fait peur, ma chère Marina, mais les personnes avec lesquelles je travaille savent que j'adore faire des métaphores à deux balles qui changent à chaque fois et qui sont mon moyen, en fait, de créer une image entre des concepts parfois un peu abstraits et puis notre réalité. Mais en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, écoute, tiens-moi au courant. Si jamais un jour t'as cette idée qui te tombe dessus, que tu tombes amoureuse d'une idée, ça me ferait bien plaisir de savoir de quoi il s'agit.
Ouais, bien sûr. Mais écoute, en tout cas, j'hésiterai pas à te dire. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était top. Et ouais, je voulais te dire que t'étais vraiment une source d'inspiration, en tout cas, et que ça me donne de l'énergie chaque jour. Donc merci.
Eh ben, écoute, ça me fait hyper plaisir et je grand big up et je salue beaucoup de personnes qui, je sais, m'écoutent quand ils font de longues heures de voiture comme toi. Je suis hyper contente d'être avec eux dans ces moments-là parce que je sais que c'est pas toujours facile de passer son temps sur la route. Donc, je pense à vous, les amis, et je suis bien contente d'être avec vous au moins par la voix. Merci, Marina.
Merci.
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. J'ai pour ma part passé un très bon moment. Bah, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à diffuser cet épisode, bien sûr, autour de vous, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Et puis pourquoi pas un peu de bouche à oreille, hein, de vive voix, ça marche aussi. Et puis surtout, si vous souhaitez postuler à une leçon, eh bien c'est très simple. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Pauline Legno sur Instagram, sur LinkedIn, Pelegno sur Twitter. Et puis pourquoi pas avec hello@paulinelegno.com. On répond à toutes vos questions. Merci à toutes pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.